Bonjour Catherine.
Allô Pascal.
Bonjour Stéphane.
Bonsoir.
Aujourd'hui au Elite Podcast, on reçoit Catherine Lepage, dit la nutritionniste active, aussi responsable de Nuova Nutrition. Je te laisse faire ta présentation. Cat, parle-nous un peu de ce que tu fais au quotidien, ta formation Nuova Nutrition.
En fait, comme tu l'as mentionné, moi je suis nutritionniste diététiste. En fait, c'est tous les deux les termes qui représentent le même métier. En fait, j'ai fait mon bac en nutrition à l'Université Laval. Puis, dans le fond, depuis que j'ai terminé mon bac en 2015, j'ai fait tout de suite de la consultation privée. C'est ce que je voulais faire. Fait qu'aussitôt, je me suis lancée au privé. J'ai commencé justement à développer mes services. Puis après ça, en fait, j'ai commencé une maîtrise en kinésiologie, mais plus axée sur l'obésité. Dans le fond, j'ai travaillé avec des camionneurs qui avaient l'apnée du sommeil, perte de poids aussi. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, je suis toujours dans le domaine de la recherche. Dans le fond, j'ai eu des contrats comme professionnel de recherche. Donc, ça fait en sorte que ma vision est vraiment connectée avec les évidences scientifiques. J'essaie tout le temps de mettre de la science dans mon approche. Puis, je continue justement de voir des clients à mon bureau privé. Je suis beaucoup présente sur les médias sociaux aussi. J'ai ma page principale, c'est la Nutritionniste Active. Ouais. Puis aussi, j'ai Nuova Nutrition que j'ai développée. En fait, c'est tout simplement le nom que je veux donner à mes services. Et ultimement, je veux le développer davantage, là, mais c'est mon blog aussi principal pour vulgariser la science en lien avec la nutrition.
Tu suis beaucoup de sportifs, je crois. En tout cas, tu suis beaucoup de sportifs, beaucoup de gens qui recherchent à se mettre en forme. Toi-même, tu t'entraînes beaucoup. Dans le cadre de tes consultations dans les dernières semaines, tu as dû entendre parler beaucoup de Game Changer.
Oui, c'est
la question qui tue en commençant notre podcast aujourd'hui. C'est quoi, selon toi, les impacts réels de ce type de documentaire-là sur Netflix qui est sans tomber dans le pro-vegan ou le pro-viande? C'est quoi les impacts réels au niveau de la population là, qui est plus ou moins connaissante au niveau alimentation?
C'est sûr que c'est une question qu'on pourrait débattre très longtemps. Là, en tant que tel, ça pourrait faire pratiquement un podcast en lui-même.
En
là.
Soi.
En soi, là, j'ai même écrit, comme tu avais mentionné sur ta page la dernière fois, j'ai fait un article justement sur Nuova Nutrition à ce propos-là. Mais globalement, ce genre de documentaire-là, ce qui arrive, c'est que ça présente toujours juste une seule facette de la médaille. En fait, c'est tout le temps orienté vers... une optique, tu sais, vers une idée principale. Dans le fond, comme si on prend Game Changer, le but, c'était de convaincre les gens d'adopter une diète comme les végétaristes. Dans le fond, ils vont sélectionner surtout des articles ou aller chercher justement des professionnels qui sont tous orientés vers cette problématique-là, puis justement, vont vers le même opinion. Fait que ce que ça fait en sorte, dans le fond, ça permet de convaincre les gens que, exemple, cette alimentation-là, comme là, le vegan, ben, que ça serait la meilleure diète, la meilleure alimentation à adopter. Premièrement, ce que ça peut faire, c'est que ça peut amener de l'anxiété aussi pour les gens, dire, mon alimentation, ce que je fais, c'est pas bon. T'sais, je viens de le voir dans le documentaire, je devrais avoir une alimentation végétarienne. Si je voudrais être végétalienne, si je voudrais être en santé. Fait que, ça, c'est la première conséquence. Deuxième chose, ça peut faire, ça continue en fait d'augmenter, ça entretient les divergences puis les débats aussi au niveau alimentaire. Parce qu'on essaie tous d'atteindre le Saint Graal au niveau de la nutrition puis de trouver la diète qui convient à tout le monde. Mais en fait, ça fait juste empirer la chose. Là.
C'est vrai ça, que les gens ont tendance à passer d'une alimentation qui est vraiment pas optimale
à un extrême.
Écouter un documentaire comme ça puis à se dire « Hey, faut vraiment que je mange mieux, donc je vais manger vegan. »
Exact. Puis tu sais, ces documentaires-là sont tellement faits de façon convaincante que on se dit « Ah, ben c'est tellement convaincant, c'est tellement noir ou blanc, c'est tellement extrême que c'est la réponse. » Alors que des vrais scientifiques vont plus chercher à nuancer les propos puis amener toujours des pour et des contre. Mais là, dans Game Changer, c'était comme juste tout des pour vers le véganisme.
Dans le cadre de tes consultations, as-tu beaucoup de gens dans ton entourage qui t'en ont parlé ou c'est-tu revenu
fréquemment. Là, c'est beaucoup. Même deux clients qui m'ont dit « Ah, tu devrais l'écouter, nous autres, ça nous a fait réfléchir. » Puis oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'en ont parlé parce que ça les avait bouleversés. Puis là, ils se disaient, ben là, je devrais-tu être vegan à cause de ça, là? À ce point-là. Là.
Comme je te disais tantôt, avant qu'on commence le podcast, moi, j'ai le cas typique d'un de mes amis qui mangeait 2 à 3 fois semaine des double cheese sur l'heure du dîner au lieu de se faire des lunchs. Rencontre son médecin, il se rend compte en fait qu'il fait un peu de cholestérol, il commence à faire du cholestérol. Son médecin l'avertit à propos de ça. Donc, lui, il se dit, ah ben, je vais essayer de mieux manger, j'écoute le documentaire Game Changer, puis finalement, je suis vegan. Donc, ça démontre un peu le type de personne qui va vraiment accrocher ce genre de choses-là. Puis je trouve que, personnellement, on a eu plusieurs questions de nos clients, nos membres ici au gym. C'est juste que ça embrouille un peu l'approche que tu devrais avoir. J'aime bien l'expression, le Saint Graal au niveau de l'alimentation.
C'est ça mélange les gens. Puis souvent, c'est comme des diètes un peu extrêmes. C'est comme ça, le vegan, on s'entend que c'est extrême. Souvent, les gens se lancent là-dedans sans avoir rencontré des professionnels. T'sais, des fois, ça peut avoir des impacts sur la santé de la personne. T'sais, si, exemple, elle ne va pas s'informer à propos de tel nutriment, elle coupe ça, puis sur le long terme, elle part des déficiences. Si on prend juste la B12, t'sais, on voit aussi de plus en plus de cas, des fois, de femmes enceintes qui désirent continuer d'être vegan ou d'être keto. Puis, t'sais, ça peut amener des risques pour le bébé aussi. Fait que, t'sais, ça, on pourrait, comme j'ai dit, on pourrait en parler longtemps, mais si on n'a pas rencontré de professionnel, puis on se lance dans une diète comme ça, ça part des risques.
Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que si tu manges vegan, tu as quand même des gros efforts au niveau préparation pour t'assurer d'avoir tout ce que tu as besoin. Là.
Exactement.
Ça amène un peu aussi, les gens vont se tourner vers le végétalisme pour se remettre en forme. Si on regarde tout ce qui est sorti dernièrement, on a eu plusieurs stats qui ont sorti dans la dernière année, là, au Québec surtout, l'obésité qui est en hausse. Pourtant, on n'a jamais eu autant accès à l'information. On entend parler à la radio, à la télé, dans les journaux. Selon toi, c'est quoi la solution ultime pour faire en sorte qu'on réussisse à stopper cette fameuse hausse-là d'obésité puis de problématique?
C'est une grande question.
Très grande question.
C'est une grande question, là. Puis en plus, dans le début de semaine, on a vu aussi que là, ils viennent de sortir des statistiques que les Québécois cuisinent de moins en moins. Fait que, ça fait juste empirer un peu le portrait, là. En fait, je dirais qu'au point où on en est, c'est plus une question d'ordre de santé publique, là. Il faudrait qu'il y aurait de plus en plus les gouvernements qui soient vraiment impliqués là-dedans. Puis, tu sais, justement, même qu'on regarde dans les élections, tu sais, les candidats n'en parlent pas vraiment. Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne parle pas, tu sais, au domaine de nutrition, prévention.
Qui a un gros impact au niveau des coûts. C'est ça, exactement. Aussi, le système de santé.
C'est ça, on est beaucoup dans le curatif, mais tu sais, la prévention, il faudrait qu'elle soit mise de l'avant. Puis aussi, une autre chose que je trouverais, moi, que je prône beaucoup, c'est l'éducation. Tu sais, je trouve que ça devrait être plus mis de l'avant, tu sais, dans les écoles. Il devrait y avoir plus de cours qui devraient être axés sur la nutrition, des cours de cuisine aussi, que ça soit accessible. Et aussi que les services comme de nutritionniste, de kinésiologue, entraîneur, que ça soit peut-être plus gratuit ou plus accessible aussi.
Ben, je pense que le problème aussi, on met tout ça dans le cours des parents, mais les parents, sont pour la majorité, sont pas formés, ont pas les connaissances pour montrer à leurs enfants comment bien manger. Je pense qu'il y a certaines affaires que les parents sont capables de faire, mais à un moment donné, il y a des connaissances qu'on pas tout le monde qui peut avoir. Puis je pense justement, c'est là que dans l'éducation, tu le disais, mettons, apprendre à des jeunes à cuisiner, déjà là, ils vont qu'à s'arranger. Sorti récemment, c'était Precision Nutrition, ont sorti des statistiques sur le pourquoi leurs clients avaient de la difficulté à atteindre leurs objectifs. Puis c'est pas tant que les gens savent pas quoi manger, c'est juste des fois, c'est une question d'organisation, c'est une question de craving, c'est une question de mauvaise gestion du stress. Fait que tu sais, c'est peut-être plus d'apprendre au monde à comment s'organiser un peu plus. Puis après ça, une fois qu'ils sont capables de se faire à manger, de s'organiser, ben peut-être que le problème va être plus facile à régler.
C'est ça, parce que les cours, tu sais, les livres de recettes, il y en a de plus en plus, là. Il y en a, c'est une panoplie.
Il n'y en a jamais eu autant, là.
Fait que c'est une question, comme Stéphane l'a dit, éducation, tu sais, peut-être d'offrir plus de techniques à ce niveau-là, tu sais, d'apprendre plus la planification, puis de rendre ça plus accessible, là. Mais, tu sais, je pense que le camp est plus dans les gouvernements que nous, en tant que professionnels, on a des limites, je pense, au niveau de ce qu'on peut faire, là.
Ouais, plus on en parle, plus on en fait la promotion, plus on a l'air d'essayer de recruter des nouveaux clients. Mais en fin de compte, on n'a pas le choix d'agir, je pense, surtout que dans notre corps d'âge, nous, en vieillissant, on va avoir à absorber aussi tout le système de la santé qui va être alourdi. Puis ça, c'est sûr qu'il va avoir des impacts là, au niveau de la santé des gens en vieillissant.
Maladies chroniques et tout ça, là, ça sent, il y en a déjà énormément, puis là, ça va être encore plus présent. Là.
C'est sûr. T'avais pas déjà justement fait un petit guide, Stéphane parlait de planification, là. T'as déjà sorti un PDF, quelque chose sur planification des repas, puis parce que selon moi, c'est un des points ultimes qu'il faut que les gens améliorent. Là.
Terriblement, parce que si on gère ça d'une journée à l'autre, c'est sûr qu'à un moment donné, on l'échappe. T'sais, on arrive à la fin de la journée, on se dit « Ah, ben là, j'ai pas déjeuné ou j'ai pas bien dîné, ben à soir, coudonc, tant pis. »
Le trafic aussi, t'arrives au pont, il y a un accident, finalement, t'arrives chez vous une heure plus tard.
Mm-hmm, la fatigue, les enfants, l'horaire, tout ça, finalement, ça fait beaucoup sur les épaules. Quand on a planifié, ben au moins, ça enlève une certaine forme de stress, finalement.
Ouais.
Non, mais c'est intéressant. Tu sais, ouais. Ça, je trouve ça le fun aussi d'avoir des fois des petits guidelines. Tu sais, ici, on travaille avec les gens vraiment plus, vraiment en surface puis à la base, au niveau des habitudes. Mm-hmm. Puis moi, ce que je vais faire généralement, c'est qu'ils vont avoir une petite feuille avec un à trois objectifs, avec un petit calendrier où ce qu'ils cochent quand ils réussissent leur objectif. Ou simple que ça. Puis des fois, c'est aussi simple que de dire, OK, tu vas manger trois fois des légumes dans ta journée. Tu vas boire, tu vas traîner une gourde d'eau avec toi. Sans vraiment être dans le très spécifique. Des fois, c'est ça, ces gens-là cherchent des réponses très compliqué à des problèmes vraiment simples.
C'est ça, exactement, tu l'as dit. Tu sais, souvent, les gens, ils vont être plus attirés vers le compliqué. Puis nous, ce qu'on va offrir, c'est quelque chose de simple, puis c'est ce qui marche au final.
Y a-tu une raison spécifique pour laquelle les gens vont venir te rencontrer en consultation? Y a-tu quelque chose qui revient sur une base régulière, là, à part la perte de poids, là, évidemment? Là, mais...
ben, premièrement, je te dirais que c'est ça, la première raison. Là, c'est souvent, les gens veulent me voir pour perdre du poids. T'sais, là, souvent, je recadre un peu. C'est souvent plus la perte de gras que les gens visent. Là, parce que souvent, les gens n'ont pas tant un si gros surpoids à perdre. Là, fait que souvent, les gens arrivent, c'est perdre de gras en tant que tel. Souvent, c'est des gens qui s'entraînent aussi ou qui sont actifs, dans le fond, de savoir quoi manger quand ils s'entraînent ou bien prise de masse musculaire. Mais ce que je vois de plus en plus, c'est vraiment comportement, relation avec la nourriture. Beaucoup. Okay. Amélioration de la relation avec la nourriture. C'est soit qu'ils ont essayé plein de plans dans le passé ou plein de diètes. Puis là, ils ont vraiment une relation conflictuelle avec les aliments. T'sais, ils voient leurs aliments. Ils ont beaucoup de culpabilité. Exemple, quand ils mangent des aliments qui sont interdits, c'est d'éclaircir un peu.
Même s'ils sont plus sur la fameuse diète.
Ouais, ça les a suivis, ça les suit. Puis c'est très difficile quand même de se sortir de ce cercle-là. Mais là, on tombe plus un peu au niveau psychologique et comportemental. Mais quand même, moi, j'en fais de plus en plus dans mes consultations.
Okay. Je trouve ça intéressant parce que tu lèves ce point-là, parce qu'on voit de plus en plus avec l'accès à l'information, c'est que les gens vont soit justement pendant une courte période de temps suivre une diète vraiment stricte, puis exemple vont faire justement la keto. Puis là après ça, ils disent ils réalisent que c'est peut-être pas le best, ou qu'ils ont la difficulté à tenir ça parfaitement, là, ils font ils virent vegan. Puis en bout de ligne, ils suivent plus rien vraiment à 100%. Fait qu'ils perdent les bénéfices potentiels de ce qu'ils faisaient. Puis là, mettons, ils se ramassent justement à manger. Mais ils mangent, ils gardent les éléments qu'ils aiment. Fait que le fait de pas trop manger de viande, exemple. Mais ils vont manger du bacon, ils vont manger des aliments, du fromage, des aliments plus caloriques un peu. Mais ils mangeront pas sans plus de légumes. Mais ils vont manger du tofu. Ils vont comme faire un blend de tout ce qu'ils aiment dans les différentes diètes. Puis en bout de ligne, tu vois un modèle qui est complètement éclaté. Puis qui s'enligne pas nécessairement avec leurs objectifs. Autant au niveau que ce soit esthétique, la santé.
Ils finissent par créer une nouvelle diète, en fait, là, avec un mélange de tout plein de diètes.
Oui.
Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de gens qui viennent te consulter qui s'entraînent?
Ou bien qui commencent à s'entraîner, oui. Tu sais, j'ai autant des gens qui font juste de la marche comme entraînement, tu sais, qui commencent, que des gens qui font des compétitions de CrossFit, des compétitions de Ironman, des Ironman, entre autres.
OK. Ouais, mais t'as pas de gens qui partent de zéro, qui ont 100 livres à perdre?
Aussi, là, j'en ai, mais c'est pas ma clientèle clé, là.
Ouais.
Mais moi, j'encourage quand même tous mes clients à s'entraîner. Tu sais, veux pas, vu que j'ai quand même une formation en kinésiologie, j'encourage tout le monde à être actif, ne serait-ce que juste des faire marcher, de s'acheter un podomètre, une montre intelligente.
Ça fait partie du modèle santé en même temps. Là, exact. C'est une grosse partie de ça.
Exactement.
Stéphane, je pense que tu avais une question pour les suppléments alimentaires.
Oui, exact. Mais tu sais, on le sait, les suppléments, c'est un gros marché. C'est une grosse industrie de plusieurs milliards. Puis je pense que les gens se perdent souvent là-dedans. Puis on parlait un peu que les gens veulent les résultats instantanés, ils veulent pas nécessairement mettre les efforts ou s'aligner là-dessus. Mais mettons, si tu avais peut-être un top 3, un top 5 des meilleurs suppléments, puis là, pas nécessairement les marques, mais vraiment le type de supplément. Puis pour la majorité des gens, mettons, qu'est-ce qui serait le mieux?
Pour, tu veux dire, un optique de santé générale?
Santé, que ce soit santé, performance. Tu sais, globalement, c'est quoi, mettons, top 3, top 5?
En fait, là, tu sais, il n'y en a pas tellement.
Okay.
Vous allez voir que j'en ai pas sorti tellement parce que quand on rentre dans un magasin de suppléments, il y en a des centaines et des centaines. Là. La majorité, malheureusement, sont juste basés sur des fois une étude sur des souris là, ou même in vivo. Fait que, malheureusement, il y en a beaucoup plus sur les tablettes que ce qui est efficace. Mon premier supplément que moi, généralement, j'ose avec tous mes clients, là, c'est la poudre de protéines, la whey. Là, okay. Oui, ça reste pas mal. Un supplément versatile, c'est pratique. Ça se traîne dans un sac de gym, puis des fois, tu sais, pour les déjeuners, ça peut être pratique. Fait que tu sais, peu importe si on s'entraîne ou non, là, je considère que c'est un supplément qui peut être bien. Là. C'est sûr qu'on peut parler de whey ou bien d'isola, tout dépendamment de la digestion de la personne. Après ça, je dirais les oméga-3 puis la vitamine D. Moi, je les mets tout le temps ensemble. Là. En fait, les oméga-3 parce que souvent, les gens ne mangent pas assez de poisson ou souvent, ils n'aiment pas ça. Fait que, au moins d'aller chercher des apports en oméga-3 un petit peu plus élevés en DHA, ben, ça, je pense que ça peut être bien. Sinon, vitamine D. Aussi, ça, je pense que tout le monde même devrait en prendre.
On n'a pas de soleil vraiment du mois d'octobre au mois de...
Octobre-avril. Moi, je dis tout le temps aux gens, prenez des suppléments de vitamine D tout le temps, là, à partir de l'automne. Là.
Puis, niveau dosage, niveau l'oméga-3, vitamine D, est-ce que tu y vas, mettons, avec des recommandations générales ou t'as plus...
Faut que je personnalise vraiment d'une personne à l'autre, là, mais tu sais, oméga-3, c'est au moins de 300-200. C'est dans les ratios PA-DHA. Okay. C'est plus élevé tout le temps en DHA parce que même dans les récentes études, c'est celui-là qui était le plus important pour triglycérides, maladies cardiovasculaires aussi, puis gestion de la glycémie. Fait que, ça, je trouve que ça peut être un bon dosage plus élevé. Vitamine D, ben, généralement, les gens actifs, je dis tout le temps à peu près 2 × 1000 unités internationales par jour. Des capsules de 1000, 2 × plus. 2 × la capsule, mais pas plus que ça parce qu'on peut avoir des effets nocifs sinon sur la masse osseuse.
Okay.
Que, des fois mieux, c'est comme...
J'avais déjà entendu mieux, parler 35 fois ton poids.
Ah, ça, j'ai jamais entendu parler, là.
Ouais, j'ai déjà entendu parler. Je me souviens plus de où ça vient, là, mais sûrement du monde de l'entraînement. Par semaine, peut-être, toi aussi, là.
Peut-être, mais je peux pas t'en dire. Rien. Non, ça me dit rien, moi, de mon côté.
Puis au niveau de la vitamine D, tu dis que je pense que tu as des effets néfastes pour, au niveau des os. Sûrement avec la calcification ou...
Quand c'est des grosses doses, là. Okay. Tu sais, des fois, j'ai déjà vu des gens qui prenaient 10 000 par jour, là. 10 000 par jour, là. Ça peut amener une dégénération de ça.
OK.
Ouais. Tu sais, des trop grosses doses d'oméga-3 peuvent amener des foie gras. Donc, tu sais, tout le temps, c'est pas mieux d'aller vers les trop grosses doses non plus, là.
C'est mieux d'en prendre sur une base régulière à dans les périodes critiques. En fait, les vitamines D, c'est l'hiver, fin de l'automne, l'hiver. Puis oméga, tu peux en prendre
À l'année. Oui, ça, c'est à l'année. Les vitamines, la vitamine D, des fois, les gens qui travaillent dans les bureaux à l'année, des fois, ça peut arriver que je leur suggère une petite dose dans l'été. C'est ça, ça fait partie les trois, là, oui, oméga-3, vitamine D, mais si on va plus, mettons, en performance, c'est sûr que j'en ai d'autres, là, des suppléments. Là.
Ouais.
Créatine, sinon bêta-alanine, caféine, glucides, des fois, être en entraînement pour les gens qui font de l'endurance, puis évidemment, du sodium, ça peut arriver.
Créatine, aussi, qui est probablement le supplément le plus débattu des 25-30 dernières années, qu'en fait, il y a tellement eu d'études là-dessus qui ont dit que c'était prouvé que ça fonctionnait. Oh, oui. Que je comprends même pas pourquoi on en débat encore. Là.
Ben, je sais pas moi non plus.
Je pense que c'est le nom.
Il y a des médecins qui disent
Il y a encore bien des mythes
à leurs patients.
Ah oui, ben oui. Puis, tu sais, la créatine, même la poudre de protéines, ça va endommager les reins. Là. J'ai entendu ça souvent. Là. Mais oui, malheureusement.
Ça fait engraisser aussi. Oui. Là. On l'entend souvent, la poudre de protéines fait engraisser quand en fait... c'est probablement juste de balancer ton alimentation complète. La protéine en soi ne fait pas engraisser. Là.
Ben non, pas du tout. Là. Même, elle peut faire le contraire. Là. Mais j'ai souvent entendu des femmes aussi que je voulais leur proposer de prendre des suppléments de poudre de protéines. Ils disaient « Ouais, mais là, je vais prendre la masse musculaire là, si j'en prends. » Je disais « Non, non, ça ne fera pas pousser les muscles. »
Ça, c'est le marketing, en fait, qui est tellement bien fait en arrière-plan pour aller chercher les gars qui veulent gagner de la masse musculaire.
Oui, exactement.
Si je te disais, j'avais tendance à dire qu'on banalise un peu le fait d'être en surpoids, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Je t'avais envoyé une liste de questions à ce sujet-là, mais mon point, c'est plutôt, c'est-tu possible d'être gros et en santé? On entend beaucoup parler dans les médias, là, il y a des pubs de vêtements pour les gens en surpoids, il y a comme une nouvelle tendance, une nouvelle mode qui se dirige vers ça, comme... l'acceptation du fait d'être 50 livres ou 100 livres en surpoids. C'est-tu possible d'être gros et en santé?
Encore là, je dirais que c'est une question qui pourrait être débattue bien longtemps.
On pourrait faire un podcast juste là-dessus.
C'est ça. Je dirais que je vais te répondre de façon plate. Là. Je vais dire oui, mais... Okay. Parce que c'est toujours une question de contexte. Tu sais, en fait, si exemple, j'ai devant moi... par exemple, une dame qui a fait beaucoup de diètes durant sa vie. T'sais, elle a fait beaucoup de diètes, elle a un petit peu bousillé son métabolisme, elle a passé demain sa vie, Weight Watcher, elle a fait énormément de diètes. Puis là, son métabolisme s'est abaissé, puis t'sais, elle a fait beaucoup d'efforts, mais elle s'entraîne, elle mange bien, elle a une bonne glycémie, une bonne triglycéride. On peut la considérer en santé, mais elle a un léger surpoids. Donc là, on peut mentionner, on peut dire quand même qu'elle fait les efforts, elle a des bonnes habitudes de vie, elle a un surpoids. Fait que oui, on peut considérer que là, elle peut apprendre à accepter son image puis son corps, puis dire que oui, il est possible d'avoir une acceptation, donc d'être en surpoids puis d'être en santé. Mais si dans un autre contexte, on a quelqu'un qui a essayé un peu de perdre du poids, puis a essayé un peu de s'entraîner, ça n'a pas marché, puis dit oh, finalement, il est obèse, puis justement, la personne dit, ben, finalement, je m'accepte comme je suis, tant pis. Mais fais pas attention, fais pas d'activité physique, fais vraiment pas des saines habitudes de vie. Dans un contexte comme ça, je dirais non. Ouais. C'est pas, tu sais, non. Là, j'encouragerais jamais ça non plus. Je dirais jamais à quelqu'un de accepte-toi malgré que tu as clairement plein de facteurs de risque, de plein de maladies chroniques, là, non. Mm-hmm.
C'est l'autre point aussi, le fait ça. De maintenir un surpoids sur le long terme au niveau inflammatoire, maladies auto-immunitaires, maladies chroniques.
Pour le dos, pour les genoux aussi. Là.
Ça va finir par avoir un impact sur le corps. Là. C'est l'aspect qu'on oublie parfois. Là.
Puis si on corse un peu les choses, mettons, justement, t'as une personne qui s'entraîne, sauf que justement, au niveau de l'alimentation, c'est pas top-notch, mais la personne s'entraîne régulièrement, tout ça. Là, ta réponse, ça serait quoi?
Par rapport...
au niveau de la... Si, mettons, quelqu'un est gros, mais s'entraîne, mais au niveau de l'alimentation, c'est juste pas là pantoute, là. Est-ce que cette personne-là peut être en santé, selon toi?
Ben, c'est sûr et certain que si elle ajoute pas le volet nutrition, à un moment donné, ça va la rattraper. C'est sûr qu'au niveau bilan sanguin, à moins qu'elle ait une hérédité de fer, là, c'est sûr que ça va la rattraper au niveau de sa glycémie, au niveau de ses triglycérides. Fait que c'est sûr que ça ne vient pas ajouter l'élément nutrition dans la balance. C'est sûr que malheureusement, elle a des facteurs de risque. Okay. Moi, c'est sûr, comme j'ai mentionné, je suis plus dans la prévention, mais je vais tout le temps mettre plus la promotion des bonnes habitudes en avant. Là. Oui, je suis dans l'acceptation de l'image corporelle, mais pour moi, ça passe aussi par les saines habitudes.
Ben c'est ça, tu peux t'accepter comme t'es, mais vouloir t'améliorer c'est quand ça. Même, puis améliorer ta exact. Santé avant tout. Là.
Exact, parce que c'est un peu une question qui vient regrouper ces deux éléments-là ensemble. Là. Puis tantôt, justement, Pascal, t'amenais quelque chose d'intéressant, c'est que les compagnies mettent de plus en plus des vêtements de l'avant, c'est des vêtements de plus forte taille, mais il ne faut pas oublier que les personnes qui sont surpoids ou obèses, ben faut qu'ils s'habillent eux aussi.
Non, c'est ça.
Faut qu'ils s'aiment en s'entraînant aussi. Fait que veux pas cette personne-là qui est dans le gym, puis tu sais, qui est peut-être en surpoids ou en obésité, ben peut-être qu'elle est en train d'essayer justement de maigrir, de faire attention à sa santé puis d'avoir une meilleure image d'elle. Ouais. Fait, c'est pour ça. Fait, oui, je suis mitigée, là, je te dirais. Là. Ouais. Ça dépend du contexte, ça dépend.
Je pense que par expérience, c'est important que la personne ait le mindset de se dire « je le fais pour moi et non pas contre moi ».
C'est ça.
Tu comprends ce que je veux dire?
Ben oui, ben oui.
Tu sais, des gens qui ils veulent pas physiquement, ils se détestent, mais c'est pas la bonne façon d'y aller. Mm-hmm, tu sais, faut que tu commences en disant « ok, mon corps est là, faut que je vois ce que mon corps est capable d'accomplir, faut que j'apprécie mon corps là, mais ça m'empêche pas de vouloir l'améliorer quand même ».
Exactement.
En fait, c'est tout qu'un processus, hein, une perte de poids, c'est pas une histoire de calorie in, calorie out, puis je m'entraîne, puis finalement, il y a beaucoup plus que ça, là, Puis les gens ont tendance à prendre du poids sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, puis après ça, ils se disent « bon, en 4 mois, je vais perdre mon surpoids ». Quand en fait, c'est impossible parce que il y a tout un ménage à faire dans les habitudes de vie. Il y a des nouvelles habitudes à acquérir, à consolider, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil aussi. On parle pas de sommeil, mais il y a un gros impact au niveau de la santé.
Je pense que quand il y a un volet esthétique au niveau de l'entraînement puis au niveau de l'alimentation, je pense avoir des choses, ça part dans le volet psychologique, mais ça peut être à un très petit niveau aussi simple que mes habitudes de vie, là, mais aussi grave que genre, des gens qui ont des problèmes au niveau, au niveau de leur enfance, puis au niveau de leur relation avec la bouffe, puis... Mais tu sais, ça, là, c'est peut-être le temps plus de référer à ce moment-là à des psychologues, là, mais reste qu'il y a tout le temps un volet aussi petit soit-il psychologique à la chose.
Ah oui, les comportements, on a parlé justement de calories in, calories out, sommeil, mais les comportements alimentaires sont tellement importants. Là. Mm-hmm. C'est souvent un des piliers que je viens justement aborder puis que je viens travailler. Parce que si la personne a fait des efforts de bien manger, dort bien, tout ça, mais elle a une relation terrible avec la nourriture, qu'elle a de l'alimentation émotive, elle pourra avoir de la misère.
Ouais, c'est là que ça devient difficile à gérer quand tu as certains aliments qui sont pour te gratifié parce que tu as vécu quelque chose de bon, ouais. Ou finalement, même tu te punis des fois là, mm-hmm. par l'alimentation. Là, ça arrive assez régulièrement qu'on voit ça. Là.
C'est ça, là, on peut tomber plus dans les troubles alimentaires, t'sais, hyperphagie, ouais. Boulimie, anorexie. T'sais, encore là, c'est une autre facette qu'on parle pas beaucoup là, des fois dans les médias.
Puis il y en a beaucoup. Là.
Ouais.
Mais je pense que c'est un des principaux problèmes, c'est les gens qui mangent en fonction du stress, leurs émotions, puis on va le voir souvent, c'est culturel. Là, je veux dire, il y a de quoi de bien qui nous arrive, on va boire, on va manger.
Ouais.
Il y a de quoi de mal qui arrive, mais encore la même chose, on va se réconforter avec la bouffe ou on va boire de l'alcool. Fait que c'est comme tout le temps ça qui vient en ligne de jeu.
C'est ça, si c'est sporadique, comme tu dis, c'est correct. Là. Mais c'est quand ça devient fréquent, puis ça arrive plusieurs fois par semaine, puis ça amène de la culpabilité, la personne se sent mal, la personne est fâchée contre elle, elle se déteste. Là, on voit là, qu'il y a une relation qui peut être vraiment malsaine, puis un trouble alimentaire. Là.
J'avais une portion où je voulais qu'on jase un peu de diète, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses, en fait, présentement sur le marché. Ouais. Puis je pense que les gens sont complètement mélangés sur tout ce qui existe. Là.
Mm-hmm. Ouais,
dans la dernière année, je pense que c'est depuis janvier 2019, dans le top 10 des livres les plus vendus au Québec, comme mm-hmm. je te disais tantôt, il y a le tome 1 et le tome 2 sur l'alimentation keto.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous parlent du keto puis mm-hmm. qui voient ça comme une solution facile à la perte de poids, quand en fait, c'est probablement la plus difficile à suivre. Là. Moi, qui est un robot au niveau alimentation, je pourrais manger mm-hmm. du steak haché à tous les jours. J'ai pas été capable de la suivre là, parce qu'à un moment donné, c'est tellement restrictif que, mm-hmm. que tu sais plus quoi manger et tu manques d'énergie. Mm-hmm. C'est quoi ton point de vue sur le sujet? Est-ce que tu as des stats? Est-ce que tu as utilisé ça? Tu as eu à l'utiliser avec des clients qui avaient des troubles de diabète ou des trucs comme ça?
En fait, faut savoir le keto à la base, c'est quoi, là? T'sais, là, c'est très popularisé pour une diète pour perdre du poids, mais je sais pas, à l'origine, savez-vous, c'est pourquoi la diète cétogène?
C'était pas pour les maladies, maladies dégénératives?
C'est pour l'épilepsie réfractaire chez les enfants. T'sais, en fait, là, nous, là, comme quand j'ai fait mon bac en nutrition, c'était vraiment ça. L'optique, dans le fond, pourquoi on a fait...
comme étant efficace.
Oui, là. Exactement. Là, c'est sûr qu'il y a aussi des fois, des boxeurs ou des gens qui font des sports avec la pesée qui pouvaient utiliser la diète cétogène, justement, pour perdre du poids rapidement. Mais là, ça a été popularisé de façon grandissante, justement, pour la perte de poids. Tu sais, comme tu as mentionné, c'est sûr et certain qu'il y a de plus en plus de gens qui adoptent ça comme un mode de vie. T'sais, ils se disent, tant qu'à faire, je change ma vie au quotidien, parce que là, on s'entend, t'sais, on coupe quand même deux groupes alimentaires. Mm-hmm. On vient couper les produits céréaliers, on vient couper quasiment tous les fruits, puis même certains légumes. Fait que, c'est extrêmement restrictif. Puis à long terme, là, ça fait quoi, 2 ans à peu près que c'est populaire? T'sais, encore là, les gens disent que c'est justement un mode de vie, on pourra s'en reparler peut-être dans 5 ans. Ça peut-être ouais, ça va survivre, évoluer, là, mais je sais pas. À ce moment-là, on verra. Mais tout compte fait, c'est sûr que c'est l'adhérence, justement, à long terme qui risque d'être problématique. Parce que tu viens d'en parler toi-même, tu as trouvé ça vraiment difficile. Puis,
ouais.
Il y a de plus en plus, justement, de gens qui essaient d'adhérer à ça. Puis, ils s'obligent à adhérer à un protocole qui est quand même assez strict. Puis, ils pensent que c'est ça qui va les amener vers une bonne santé. Ouais. Ou encore là, comme on en a parlé tantôt.
Je pense
là,
qu'il y a des gens qui sont capables de fonctionner avec mm-hmm. beaucoup moins de glucides que d'autres.
Mm-hmm.
Mais en même temps, il faut quand même que le moule de la diète te permette de manger des légumes, de manger des fruits, mm-hmm. de manger...
Exact. Parce que, tu sais, il y a quand même des impacts négatifs. Là. On s'entend au point de vue comportement. Ben, tu sais, les occasions sociales... Ben, c'est sûr que c'est bien plus difficile, c'est quand tu fais le keto, là. Si on prend juste des repas dans le temps des fêtes, c'est sûr que là, on vient carrément couper plein d'aliments d'un coup, là. Après ça, au point de vue santé...
Donc, au niveau des effets secondaires, au point de vue de la diète keto, il y a probablement quelques effets que tu mm-hmm. peux remarquer puis qui sont très bien connus dans le monde de l'alimentation, de la nutrition.
Mm-hmm. Ben ça, comme on disait tantôt, au niveau des comportements alimentaires, là, ça emmène quand même des restrictions discussion assez importante, là, ne serait-ce que juste dans les situations sociales. Au point de vue nutritionnel, c'est sûr que ça amène beaucoup de risques de déficience. T'sais, si on prend juste les fibres, on coupe tous les deux groupes majeurs qui fournissent des fibres, les produits céréaliers, beaucoup de fruits, puis même au niveau de certains légumes. Fait que c'est sûr que quelqu'un qu'au niveau digestif, admettons que c'est boiteux, ben là, ça peut amener des risques de constipation. C'est pas pour rien que des fois, les kétos vont prendre du psyllium pour aider, là, mais ça, c'est un des effets secondaires en premier lieu. Sinon, ben, tu es à risque de déficience ou d'apport vraiment bas en vitamines du groupe B, en potassium, en magnésium. T'sais, ça, c'est quand même tous des minéraux qui sont importants pour le métabolisme d'énergie.
Est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits, des études qui ont été faites au point de vue de certaines conditions pour lesquelles c'était bénéfique d'utiliser le keto ou de... que les gens amélioraient leur santé par ça, autre que épilepsie ou... Je sais qu'il y a diabète un peu, là, mais c'est plus high fat, low carb et non du keto. Il y a une différence.
Oui, il y a une différence entre les deux parce que oui, ben, tu sais, veux pas des études, ça prend du temps à les faire. Là. C'est des études qui sont de qualité puis qui sont crédibles, ça prend du temps à les faire. On commence à en avoir. Là. C'est sûr que, point de vue d'une diète... juste pour perdre du poids, à la date, c'est pas nécessairement plus avantageux qu'une autre. Il n'y a pas de plus grande perte de poids. Pour les gens qui ont le diabète, c'est quand même une obésité ou des conditions métaboliques plus détériorées, ça peut être utile sur une courte durée. C'est comme tu as mentionné, le plus high fat, low carbs, mais pas obligé d'aller dans le keto nécessairement pour avoir les mêmes bénéfices.
Parce que les paramètres du keto, dis-moi là, si je me trompe, le pur keto, c'est 25 ou 30 grammes de sucre par jour.
De glucides par jour.
Ouais. Une pomme.
C'est à peu près entre 20 et 30.
Là. OK. Si tu manges une pomme, il y a de bonnes chances que tu défonces.
Ben oui, tu manges des carottes, là, tu vas...
Puis tu défonces.
Ouais. Exact.
Fait que c'est quand même extrêmement restrictif.
Exact. Faut que tu refasses ta garde-manger.
Fait que dans le fond, souvent, quand les gens nous parlent au gym que « Hey, j'ai acheté un truc keto sur Internet à 30$, puis je suis ça, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner », probablement, ce qu'ils font, c'est du high fat, low carb.
Ouais, ou c'est un supplément.
Ou c'est parce que en bout de ligne, tu vois, c'est sûr que la plupart des gens défoncent leurs 20-25 grammes de glucides par
jour. C'est ça. À moins qu'ils suivent vraiment avec un calculateur de calories puis qu'ils sont vraiment conscients, c'est quoi les sources de glucides, les sources de protéines, les sources de lipides. Là. Parce que souvent, les gens se lancent là-dedans puis ils n'ont même pas de base en nutrition. Là. Fait que oui, ça se peut qu'ils fassent plus du high fat, low carbs.
Ouais, c'est ça.
Ben, souvent plus qu'autre chose.
Mal géré en plus. Parce que là, c'est pas la même diète si tu tombes dans le high fat, low carb.
Exact.
Ça nous amène à parler de protéines. Il y a Sean Baker qui est un médecin, je pense, en fait. C'est Dr. Sean Baker qui est en train de populariser la diète carnivore où tu manges uniquement de la viande. Est-ce que tu as entendu parler de ça?
Oui. Comme je te disais tantôt, j'ai même entendu parler du raw carnivore.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est parlé de ça. Ça, j'en ai pas entendu parler. Moi, personnellement, je l'ai essayé pendant 9 jours l'année dernière, le carnivore diet. Je trichais un peu avec des œufs au travers, mais sinon, zéro fruits, zéro légumes pendant 9 jours. Je me suis très bien senti quand je l'ai fait, puis je m'entraînais fort, puis ça allait bien. Sauf que je me questionne à savoir si c'est vraiment quelque chose qui est logique et santé.
Ben, on peut reprendre les idées de la diète keto. Tu as juste l'adhérence. Tu as fait 9 jours et tu as trouvé ça difficile. T'sais, imagine-toi vivre en suivant une diète comme ça. Ben, c'est sûr, premièrement, ben, ton portefeuille va passer tout dans...
dans ton alimentation.
dans ta consommation de viande. Là. Mais tu sais, là, on peut parler longuement de tous les nutriments que tu évites. Là, la vitamine C est nulle, là, exemple, dans la viande. Magnésium, les fibres, t'en as pas. Beaucoup de gras saturés, beaucoup de gras... c'est beaucoup des paramètres qui sont sous-optimaux, surtout si on s'entraîne à long terme. Je suis pas convaincue, là, non. Là. Puis tu sais, aussi, on parle beaucoup là, d'un point de vue santé, mais on a, pour le keto, puis entre autres pour la diète carnivore encore plus, si on regarde juste des fois au point de vue environnemental, je veux pas tomber dans le débat là-dessus, mais c'est juste des fois la consommation de viande, si on l'encourage de plus en plus, c'est sûr qu'on est tous au courant au point de vue de la production de viande, comment c'est polluant. Fait que c'est sûr que je pense pas que d'un point de vue de société, que d'encourager la consommation de viande, moi, c'est une bonne chose.
Ouais, c'est pas possible d'accomplir quelque chose de viable avec ça.
Pas nécessaire, pas à mon point de vue.
Stéphane, t'avais lu le livre Cas d'obésité de Jason Fung?
Non.
Ah non?
C'est pas moi.
Jason Fung, qui habite à Toronto, en fait, travaille beaucoup avec des diabétiques, a sorti le cas d'obésité puis le cas de diabète, deux livres disponibles dans les librairies ici au Québec. Puis c'est un il amène le concept du high fat low carb, mais aussi du jeûne intermittent. Mm-hmm. Jeûne intermittent qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci,
mm-hmm.
qui est un autre type de façon de s'alimenter, mais qui n'est pas nécessairement restrictif au niveau du nombre de calories. Corrige-moi si je me trompe, mais...
Non, pas vraiment.
Normalement, tu devrais manger sensiblement le même nombre de calories, mais mm-hmm. dans une période ciblée.
Mm-hmm.
Est-ce que tu as eu à dealer avec ça? Est-ce que tu le recommandes, ce genre d'alimentation-là?
Ben, encore là, c'est sûr que moi, je suis jamais dans les diètes très extrêmes, là, mais... Tu sais, ce qui arrive, tu l'as mentionné, quand on fait le jeûne intermittent, ben on vient juste créer une fenêtre justement pour manger. Des fois, il y a des protocoles plus extrêmes que d'autres. C'est sûr que bien souvent, là, si on vient se faire justement un protocole très court, ben on vient certainement couper un gros repas, on vient couper facilement un nombre de calories X. Tu sais, des fois, les gens ne sont pas capables de tout combler leur apport en calories, fait que c'est pour ça qu'ils perdent du poids. Tu sais, c'est souvent une question assez facile. Sinon, au point de vue... Tu sais, souvent, ce genre de protocole là va fonctionner bien pour les gens qui déjeunent pas. J'ai déjà vu ça pour les gens qui déjeunent pas, c'est comme ça fait partie de leurs habitudes, fait que ça va bien avec leur mode de vie.
Plutôt
mais,
que d'essayer de tout chambouler ce mm-hmm. qu'ils font déjà, dans le fond, tu vas adapter avec eux.
C'est ça, ça peut bien se faire, mais encore là, c'est parce que la personne, généralement, elle va se lever le matin, elle va aller travailler. C'est surtout au niveau de concentration l'avant-midi, mais peut-être ça peut être sous-optimal là, de ce côté-là. Ouais. Encore là, on pourrait parler aussi au niveau des comportements alimentaires. T'sais, plus qu'on réduit le range pour manger, ben plus que la personne, elle va... Si elle sait qu'elle faut qu'elle consomme un certain nombre X de calories, ben encore là, ça peut amener la personne à se gaver aussi là, pour être sûre de tout combler ses aliments. Puis des fois, les personnes ne font pas nécessairement attention à leur choix alimentaire.
Mm-hmm.
Dans ce temps-là, ils vont juste combler leurs besoins en calories, mais ne vont pas nécessairement changer leurs habitudes puis leur choix alimentaire. Fait que, ça peut être là, l'effet pervers aussi. Là.
Ouais. Mm-hmm. Moi, je l'ai testé pendant un bon bout, je te dirais. Puis
mm-hmm.
comme tu disais, ça dépend comment les gens fonctionnent. Moi, je me sentais super bien. Mais mm-hmm. en même temps, comme je disais avant, j'ai fait le carnivore pendant 9 mm-hmm. jours. Fait que je peux mm-hmm. être un robot au niveau alimentation, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas que comme ma conjointe n'est pas capable de suivre ça. Là.
Si nous qui se lèvent le matin, ils ont super faim. Fait qu'imagine si on leur dit de juste manger à... Exactement. Une heure, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, en tant que tel, c'est plus une distribution alimentaire plus qu'un changement des choix alimentaires.
Oui.
Puis selon toi, mettons, le fait d'avoir cette fenêtre-là, là, disons que tu sais, il y a différents niveaux, là,
mm-hmm.
mais tu sais, juste mettons de se dire, OK, pendant 12 heures, tu manges pas, par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a des bienfaits au niveau de la digestion? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine à ce niveau-là?
Moi, je pense pas nécessairement. Là. C'est sûr qu'il y a rien... de plus, tu sais, au niveau des études scientifiques, il n'y a rien non plus qui supporte plus de bénéfices reliés à ça non plus. C'est encore là, parce que là, tu nourris pas ton corps, fait que c'est sûr qu'il va être obligé d'aller puiser dans tes réserves de glycogène au niveau musculaire, mais tu sais, ça sert à quoi d'infliger ça à ton corps, tu sais, quand tu peux avoir une alimentation équilibrée et avoir à peu près les mêmes résultats, là. Fait que c'est ça, ça sera à débattre. Puis, tu sais, un concept que je trouve encore plus intéressant qui commence à émerger, c'est le principe de la chrononutrition. C'est moi que je trouve beaucoup plus avantageux là, que justement
intermittent fasting.
Chrononutrition, ben grossièrement, c'est plus d'aligner ses apports en fonction du cycle circadien. C'est de manger un peu plus en début de journée, puis de manger moins en fin de journée, donc ça va plus s'aligner avec le sommeil. Donc, c'est sûr que si on travaille la nuit, si on a des horaires différents, ben là, encore là, c'est adapté selon d'une personne à l'autre, mais ça, tu as plus d'évidence scientifique qui aligne ça, là, justement pour les gens qui ont le diabète ou des maladies cardiovasculaires, c'est plus intéressant. C'est sûr que là, si on est un athlète qui s'entraîne en fin de journée, c'est toujours à contextualiser, mais je pense que ça a plus de potentiel.
Ouais. Ce qui est difficile aussi, c'est que les gens ont tendance justement à moins manger le matin parce qu'ils prennent pas le temps.
C'est ça.
Là, ceux qui ont le temps de prendre le temps de manger pendant un gros repas, c'est le soir.
C'est ça.
Fait que
c'est ça serait l'inverse. Oui, c'est ça.
Ça rejoint un peu ce qu'on a jasé avec. On a rencontré une personne de la clinique de traitement de l'insomnie de Québec,
mm-hmm.
puis qui nous disait que le souper devrait pas être un si gros repas, justement pour limiter l'activité qui va se passer au coucher.
Exact. Pour te permettre
te permettre de bien dormir.
Mm.
Stéphane, je te laisse aller pour le calorie-in.
Yes, ben, en fait, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de cette... si on y va juste court de même,
mm-hmm.
calorie-in, calorie-out, mm-hmm. c'est quoi ton... Où tu trouves par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses?
C'est c'est encore une réponse mitigée. Là. Mm-hmm. C'est, ben, oui, c'est la base, c'est ça qui fonctionne. Là. C'est une question de mathématiques, veux pas. Là, mais si on s'attarde juste à cette question-là, on oublie énormément de facteurs qui sont cruciaux. Là. On a parlé tantôt le sommeil, la gestion du stress, les comportements alimentaires. Là, mais à la base, c'est quand même ça qui fonctionne, là, le calorie in, calorie mm-hmm. out. Après ça, ben, c'est sûr qu'il faut regarder selon les choix alimentaires de la personne. Ben, c'est sûr que si elle mange juste ses calories sous forme de chocolat, entre autres, là, c'est sûr ouais. qu'elle ne sera jamais rassasiée, elle va avoir une mauvaise gestion de la glycémie. Mais tu sais, ça peut arriver comme justement que la personne compte ses calories, supposément, mais qu'elle ne perde pas de poids. Fait qu'il va y avoir d'autres facteurs, mm-hmm. justement.
C'est, mais ben, c'est ce que j'allais te dire. Là. ça arrive assez régulièrement c'est qu'on ça. A. Mm-hmm. Tu sais, mettons, là, présentement, je travaille avec une cliente mm-hmm. qui est suivie par une nutritionniste depuis mm-hmm. quelques mois. Puis elle est très, très assidue là, sur mm-hmm. le plan, puis calorie in, calorie out, puis mm-hmm. elle a perdu zéro livre.
Zéro livre, OK.
Donc, à ce moment-là, bon. C'est ça. Est-ce que, ma question, c'est est-ce que les gens calculent mal ou évaluent mal leur rapport calorique ben, ou il y a quelque chose d'autre en arrière-plan?
Ben, tu viens d'en nommer deux, là, tu sais, qui sont bien, ben premièrement, il faut s'assurer que la personne suive ses calories. Bon, si elle fait juste bien manger, ben peut-être qu'elle ne fait pas de déficit calorique. T'sais, ça arrive souvent, les gens disent « je mange bien, mais je ne perds pas de poids ». Ben, s'il n'y a pas un contrôle des calories, premièrement, c'est sûr qu'on n'aura pas peut-être de déficit calorique. Deuxièmement, des fois, les gens surestiment un petit peu leurs dépenses énergétiques. T'sais, souvent, comme moi, dans mon bureau, ben, les gens me rapportent l'activité physique qu'ils font. Fait que, j'ai pas un podomètre que je peux leur donner, puis il faut le préciser pour évaluer leurs dépenses énergétiques. Mm-hmm. Fait que, des fois, ça se peut que les équations soient moins alignées avec leurs dépenses énergétiques. Fait que, ça se peut que je surestime leurs dépenses. Après ça, des fois, il peut y avoir aussi une mauvaise distribution des portions dans la semaine versus la fin de semaine. Il mm-hmm. faut regarder ça. Si la semaine, la personne est super à cheval, du lundi au vendredi, mais le samedi, dimanche, ben, elle oublie son plan, puis
c'est le party elle mange, de bouffe,
c'est ça. Elle va aller au restaurant, elle boit beaucoup d'alcool, après ça, elle mange un peu tout ce qu'elle veut, puis elle dit « Ah, oh, ben lundi, je recommence. » Ben, c'est sûr que si la semaine, elle a fait un petit déficit calorique, mais rendue à 20 semaines, elle mange le double de ce qu'elle mangeait d'habitude, on l'a plus, le déficit calorique, ouais. là. Exact, parce que des fois, je dis aux gens, vous pouvez regarder ça aussi sur une semaine et non pas juste sur quotidiennement, là. Mm-hmm.
On vit aussi ouais. l'inverse, par exemple. Tu vois, là, on fait un challenge 30 jours avec Amélie et Valérie en bas au gym, les deux entraîneurs.
Mm-hmm.
Puis Amélie, dans le cadre du challenge, il fallait qu'on, avec une évaluation de base de son nombre de calories qu'elle devrait manger, s'est rendu compte qu'elle devait manger beaucoup plus de protéines qu'elle en mangeait réellement.
Okay.
Puis elle a eu de la difficulté au début. Puis tu vois, après une semaine, deux semaines, mm-hmm. le pourcentage de gras s'est mis vraiment à descendre. Puis ça, c'est un côté difficile, surtout que les femmes. Ouais. De faire comprendre que ça se peut que tu manges pas assez, puis c'est pour oui. ça que tu maigris pas.
Ben oui, tout le monde, moi, quand ils viennent me voir dans mon bureau, ils font tout le temps un saut. Quand je leur dis qu'ils devraient manger ça de protéines au déjeuner ou ça d'aliments, ils sont comme, ben voyons, je vais vraiment perdre du poids en mangeant ça. Fait que oui.
Souvent, les gens pensent, font beaucoup le calcul dans leur tête, je mange pas beaucoup, je vais maigrir. Mais en exactement. Fait, c'est pas la réalité.
Pas
là.
Nécessairement. Puis c'est aussi un point important, là, tu sais, juste pour clore ta question, parce que ces deux points, je considère importants aussi. Il faut prendre en considération si la personne, si elle fait un plan et ça ne perd pas de poids, ben faut voir son antécédent. T'sais, si elle a fait plein de diètes dans le passé puis elle a un petit peu bousillé son métabolisme puis elle a tout le temps été en déficit calorique chronique durant plusieurs mois, ben ça se peut que son métabolisme soit vraiment plus bas finalement que prévu. Là.
Okay.
Fait que ça, c'est pas à prendre à la légère aussi. Là.
Ça se rebalance à force. Oui,
mais ça prend du temps. T'sais, premièrement, il faut enlever l'idée de faire une diète tout de suite. Là. C'est de revenir au maintien, de passer un bout en maintien, de faire du... Moi, je fais du reverse diet, en fait, avec mes clients. Là.
Okay.
C'est que je remonte les calories, puis tu sais, je fais en sorte que la personne, oui, on va mettre temporairement une pause sur la perte de poids, mais c'est pour mieux revenir après avec un métabolisme plus en santé. Là.
Tu coaches le système à bien absorber ses calories, à bien gérer ouais. la bouffe pour ensuite revenir
ça, vers... les sources de stress, tu sais, apprendre à s'entraîner en ayant plus d'énergie. Puis bien souvent, là, le corps se réaligne au niveau hormonal, c'est mieux, au niveau thyroïdien, puis tu sais, ça se replace un peu plus. Là. Parce que si la personne s'inflige tout le temps diète après diète, puis est stressée, puis ça prend toute la place dans sa tête, c'est sûr que déjà là, ça met un gros frein sur la perte de poids. Là.
Ouais. Les big rocks, Stéphane, c'est yes. ton...
Ben, en fait, quand tu travailles avec un client, mm-hmm. c'est quoi, mettons, tes point principal que tu veux spotter en premier, c'est quoi, mettons, tes piliers mm-hmm. avant de pousser plus loin au niveau exemple, je sais pas, des fois, des proportions au niveau du timing, des choses en même, c'est quoi, mettons, que tu regardes en premier?
Mais premièrement, je regarde la personne si elle est active ou pas. Okay. Premièrement, c'est sûr que je vais. C'est dans mes premières questions au niveau d'un questionnaire. Ensuite, le sommeil. Donc, la personne, est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle a des troubles de sommeil? Est-ce qu'elle fait de l'apnée du sommeil? Après ça, je vais aller regarder aussi sa relation avec la nourriture. Donc, si c'est conflictuel, si c'est bon, s'il y a l'alimentation émotive. Puis après ça, je vais regarder aussi gestion du stress. Ça, j'en parle beaucoup, puis c'est quand même non négligeable. Puis après ça, c'est pas mal ça. Mes quatre, c'est pas mal les piliers. Tu sais, il y en a qui sont plus importants chez certaines personnes que d'autres. Là. Puis aussi, ah, ben, la digestion, que je peux ajuster à ça.
OK, cool. Cool. Évidemment. Super. Mm. Puis je t'en parle un peu, tu sais, au niveau sommeil, gestion du stress qui ont un impact, tu sais, oui, sur nos choix alimentaires, mais aussi sur, des fois, la façon que notre corps traite la bouffe. Peux-tu nous en parler un petit peu plus?
C'est sûr que moi, le sommeil, tu sais, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, là. Puis tu sais, je dis souvent aux gens, tu sais, c'est sûr que c'est pas dans l'assiette, là, en tant que tel, c'est vraiment pas un nutriment ou quoi que ce soit, mais ça a quand même tellement des impacts importants sur les choix alimentaires puis sur l'apport alimentaire que je peux pas passer à côté. Tu sais, en fait, là, une personne que de un, elle a des horaires de sommeil irréguliers, donc elle se couche à chaque soir jamais aux mêmes heures, ou bien qu'elle a des heures de sommeil trop raccourcies, ce que ça va faire en sorte, dans le fond, ça va venir jouer sur les hormones de la faim. Tu sais, la ghréline, la leptine, c'est sûr que ça vient vraiment bouleverser toutes ces hormones-là. Tu sais, la ghréline, c'est l'hormone qui fait qu'on a faim, donc souvent, elle est plus augmentée quand on n'a pas assez dormi. Fait qu'on va avoir la sensation d'avoir tout le temps faim. Après ça, ça va venir aussi jouer beaucoup sur la gestion des portions, en tendance à vouloir manger un petit peu plus, puis aussi plus de craving. Tu sais, des fois, les gens qui ont plus de craving, ben des fois, s'ils n'ont pas assez bien dormi, ça peut venir de là aussi, là, parce que souvent, même des fois, après une seule nuit, tu sais, j'ai vu un papier récemment, tu sais, après même une seule nuit que le sommeil était raccourci, il y avait déjà des changements au niveau du cerveau qui faisaient en sorte qu'on avait plus envie de se récompenser.
Yep.
Au niveau de, tu sais, d'aller manger plus de chocolat, d'aller manger des aliments plus gras, plus sucrés pour se garder réveillé puis pour se récompenser là, au niveau alimentaire. Fait que, tu sais, juste là, ça a quand même un impact assez majeur là, sur...
Puis est-ce que ça pourrait avoir rapport justement au fait que le corps a comme moins d'énergie vu qu'il n'a pas récupéré, puis il essaie d'aller chercher une source externe d'énergie pour...
Ouais, exactement. Ça ressemble aussi pas mal un peu ça, le mécanisme, là. Puis tu sais, il y a une cascade d'hormones qui est en jeu là-dedans, là. J'en ai pas parlé, mais tu sais, leptine, ghréline, mais tu sais, d'autres choses, même la gestion de la glycémie se fait moins bien aussi quand on dort moins bien, là.
Si tu désires rester informé au point de vue nutrition, on te suggère d'aller voir le blog de Catherine sur nuovanutrition.com. Tu peux aussi contacter Catherine si tu désires avoir un suivi en nutrition. Son courriel est le nuovanutrition@gmail.com.